la table des gourmands. Jusqu'à 19h.
La femme que nous accueillons ce soir à la table des gourmands est une grande épicurienne. En plus d'aimer les bons petits plats, elle aime par-dessus tout la vie qu'elle croque à pleines dents. Dans chaque engagement qu'elle a pris tout au long de sa vie, elle s'est investie, elle a toujours tenu ses promesses et n'a jamais fait les choses à moitié. C'est normal car c'est une femme entière. Si elle est là ce soir, c'est pour partager son savoir, nous faire part de ses anecdotes qui souvent riment avec rigolote et passer un pur moment de convivialité parce que ça fait aussi partie de son mode de vie. J'ai le plaisir ce soir d'être en compagnie jusqu'à 19h de Ghislaine Guénia de Courtedoux, Dixie La Gavotte. Gavotte, bonsoir, merci d'être venue.
Bonsoir Sandra.
Ça va bien ?
Mais très bien, merci. Et vous ?
Ça va, merci. Gavotte, petite, vous allez à l'école à Moutier, vos études terminées, vous effectuez l'école normale ménagère à Porrentruy et obtenez votre diplôme d'enseignante en économie familiale. Vous enseignez à Malraix en primaire et secondaire, à Bâle, vous vous mariez, élevez vos enfants et en 1979, vous êtes nommée inspectrice de l'économie familiale. En 1979, c'est également la date de l'entrée en souveraineté du canton du Jura. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux choses ?
Naturellement. Avant, comme on faisait partie du Jura bernois, il y avait une inspectrice qui venait de Porrentruy, mais qui n'habitait plus Porrentruy depuis longtemps et qui passait dans les classes du Jura actuel. Donc j'ai été nommée par le gouvernement pour commencer mon travail à 50% le 1er février 1979.
Et comment devient-on une inspectrice de l'économie familiale ? Quel était votre rôle ?
Mon rôle, c'était de passer dans les classes pour voir si tout se passait bien, si les enseignantes faisaient des menus équilibrés, parce que nous avions beaucoup plus d'éducation nutritionnelle à l'époque que maintenant. Et nous avions plus de temps pour élaborer des menus équilibrés.
Donc vous faisiez tout le tour des classes. En fait, votre travail, c'était de tourner de classe en classe.
Je faisais le tour de toutes les classes. Et en plus de toutes les classes de ce qu'on appelait dans le temps la couture, et j'ai changé toutes les méthodes parce que je me retrouvais à 40 ans comme quand j'avais 12 ans.
Au niveau donc, même de la cuisine aussi ?
Non, la cuisine, c'était mieux.
Et puis alors cette passion, ce goût pour la cuisine, vous l'avez depuis votre enfance ?
Ah oui, je l'ai depuis mon enfance. Ma mère était une très bonne cuisinière. Même pendant la guerre, je n'ai aucun souvenir d'avoir été privée de quoi que ce soit. Mon père savait toujours se débrouiller pour rapporter des bonnes choses. Et ma mère savait très bien les apprêter.
Donc vous êtes tombée dans la marmite quand vous étiez petite ?
Tout à fait.
Et puis vous avez commencé de mettre la main à la pâte déjà petite ou bien plus tard ?
Ah non, j'étais trop paresseuse pour ça.
Donc, vous laissiez la cuillère puis la casserole, quand même.
Oui, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, mais pas avant.
Tranquillement. Gavotte, vous avez parlé donc de votre rôle d'inspectrice de l'économie familiale. C'est un poste qui n'existe plus.
Non, ça n'existe plus. Ça a été supprimé après ma retraite. Ou juste avant, et maintenant il y a des coordinateurs ou des coordinatrices, mais je ne m'intéresse plus beaucoup à ce qui se passe dans les écoles, parce que je suis déçue de beaucoup de choses.
Et puis donc, lorsque vous étiez inspectrice de l'économie familiale, hein, lorsque vous aviez ce poste, lorsque vous étiez en poste et pas en piste, quoique, vous visitiez les classes, donc vous inspectiez, et il n'y avait que des filles qui participaient à ces cours de cuisine. Et en bonne féministe que vous êtes, qu'avez-vous fait ?
J'ai tout fait pour introduire la mixité d'une façon obligatoire. C'était très difficile parce que personne ne voulait y croire. Les parents, les enseignants, c'était une discipline uniquement pour les filles. Et je voulais que tout le monde passe par l'économie familiale pour que la répartition des tâches dans les familles se fasse convenablement. Et évidemment, c'est grâce au ministre Roger Jardin que j'ai pu introduire la mixité obligatoire dans les classes.
Vous étiez un peu seule pour cette décision ?
Ah, j'étais très seule et j'ai beaucoup combattu.
Mais vous avez réussi.
Mais j'ai réussi.
Donc la mixité est arrivée dans les années 80.
Les années 81-82.
Ah, donc juste après que vous ayez pris ce poste, c'est allé quand même, ceci dit, assez vite.
Oui, c'est allé assez vite, mais pour moi c'était encore trop lentement.
On parlera tout à l'heure du rapport entre les hommes et la cuisine. Juste avant, on se fait plaisir. Je vous emmène Gavotte ce soir à Porto Vecchio et nous y allons en compagnie de Julien Doré. Ça vous dit ?
Ah oui, j'adore Porto Vecchio.
Moi, j'adore Julien Doré.
Jusqu'à 19h.
Nous sommes en compagnie ce soir de Gavotte Guénia de Courtedoux, ancienne inspectrice de l'économie familiale. Gavotte, vous n'avez pas que fait surveiller des cours hein, pendant votre parcours professionnel. Vous en avez donné également dans le cadre de l'Université Populaire, destinée exclusivement, attention, aux messieurs. Mais il se passe quoi, Gavotte, avec la cuisine et les hommes ?
C'était dans les années 70 et j'étais déjà à cette époque-là très féministe. Alors je me suis dit, si je prends que des hommes, ils feront la cuisine à la maison, ils seront enchantés et c'est bien ce qui s'est passé. Je devais en donner 3 ou 4 par 16 ans parce qu'ils se réinscrivaient pour le cours suivant, puis les élèves inscrits pour le cours suivant, on les reportait 5 semaines plus tard. Si bien qu'après 3 cours, ils m'ont fait une surprise. Ils ont élaboré un diplôme pour la mère Gavotte et on a fait une fête pour ce diplôme. Et tous les 3 cours, c'est le pays qui les réimprimait parce que j'avais à l'époque M. Baumgartner qui était directeur du pays qui venait suivre les cours. J'avais des élèves entre 16 et 80 ans. Après ça, ils ont créé une association, les Pots au Feu.
Les Pots au Feu, oui.
Et qui est toujours
en activité.
Et je crois que ça va très bien. Mais beaucoup ont quitté. Maintenant, je ne connais plus tout le monde dans cette association. Mais ils sont toujours restés très sympathiques avec moi.
Et puis, ils ont duré longtemps, ces cours. En plus d'avoir du succès, ils ont duré longtemps.
Ah, ils ont duré longtemps, jusque dans les années même 95, 96.
Et puis vous les faisiez donc, ces cours, est-ce que vous les faisiez dans les cuisines que vous alliez à l'époque surveiller ?
Ah oui, oui, oui.
Dans les mêmes cuisines ?
Dans les mêmes cuisines, mais je les faisais que à Porrentruy. Alors il y avait Juventuti, où il y avait 2 cuisines, et puis après j'allais au Collège Thurman, parce que dans ma fonction, j'aidais aussi à concevoir les transformations ou les nouvelles cuisines pour qu'elles soient un peu plus modernes qu'avant.
Et puis, vous dites, ça, à la maison, après, ils faisaient la cuisine, donc ça leur a donné goût à faire et envie à faire la cuisine.
Ah oui, 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 pas tous. Hein. Évidemment qu'il y en a qui venaient pour apprendre, mais pour refaire les mêmes menus le dimanche. Et puis d'autres qui venaient aussi pour se délasser, qui étaient moins motivés. Mais en classe, ils étaient obligés d'être motivés.
Vous en avez vu qui n'avaient jamais vu une planche à découper, jamais vu un couteau, jamais vu qui ne savaient pas ce que c'était un poireau ou autre chose.
Pas à ce point-là, mais j'en ai vu qui n'avaient jamais fait de cuisine et qui étaient un peu plus gauches que les autres. Il fallait leur montrer comment, quand je disais on coupe des légumes de 5 mm de côté, s'ils les coupaient trop grands, je les faisais redécouper. 5 mm, c'était 5 mm.
J'en doute pas, ça devait barder. Ça devait barder ses cours. En parlant de cours, Gavotte, vous en avez donné, mais vous en avez pris également.
Ah oui, je suis allée 3 fois à Mougins, parce qu'à l'époque, à Mougins, il y avait un 3 étoiles Michelin. C'était chez Roger Verger, et j'ai pris 3 cours là-bas. C'était superbe. Mais c'était un cours de démonstration. Une fois, j'ai pu aller en cuisine avec le personnel, ce qui était en même temps une étude sociologique. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'en ai suivi aussi chez Roland Pierrot à Verbier. Et Roland Pierrot n'est plus, Roger Verger n'est plus. effectivement, les restaurants se sont fermés ou c'est devenu des restaurants tout simples.
Mais ça, vous alliez à ces cours, vous participiez à ces cours par plaisir, par pur plaisir. Vous le faisiez pour vous ou parce que vous en donniez ou parce que vous vouliez justement faire passer comme une passeuse ces recettes et puis ce savoir.
Ah, je voulais faire passer des nouvelles recettes. C'était à l'époque, dans les années 80-85, jusqu'en 90-91, c'était ce qu'on appelait la nouvelle cuisine. Donc c'était moins des recettes de l'ancien temps, les recettes du terroir. C'était des choses un peu différentes. Et c'était très intéressant pour moi d'abord, et puis pour retransmettre éventuellement les recettes.
Alors on a la chance, nous aussi, d'avoir chaque semaine un cuisinier pour nous donner des conseils ou encore une recette. Cette semaine, Claude Frotté s'intéresse aux linguine. Parmi toutes les nouilles que vous connaissez, Gavotte, est-ce que celles-là, vous les avez déjà goûtées ?
Je les ai déjà goûtées, mais pas celles de Claude Frotté.
C'est de bon goût. Joël.
Des pâtes, oui, mais des linguinés au menu de cette semaine avec Claude Frotté.
Bon, d'abord, ça vient de la région de Gênes, hein, l'origine du linguiné. Hein, ça veut dire petite langue, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça. Et puis en traduction directe, en fait, c'est un spaghetti qui est plat. Ou alors, si vous voulez, c'est une nouille qui est très mince. Hein, ça fonctionne aussi comme ça. On peut acheter un linguiné déjà prêt, puis le cuire comme un spaghetti, 8, 9, 10 minutes selon la notice d'emballage et la marque. Ou alors faire des nouilles maison, mais alors coupées très fines, au laminoir ou au couteau. On peut aussi, c'est un peu difficile au couteau, mais j'ai alors au laminoir avec une grille qui coupe très fin. La pâte à nouilles traditionnelle, et on peut faire le linguiné. Puis après, justement, le linguiné me plaisait parce que c'est un autre goût que le spaghetti. C'est un peu moins connu chez nous. Puis ça se prête mieux à des plats parce que la sauce ou ce qu'on va mettre dans le linguiné adhère mieux à cette pâte, à cette forme de pâte, tandis que le spaghetti rond, ça coule, ça tient moins bien.
Alors, si on veut les faire soi-même, qu'on a le laminoir, on a fait sa pâte, etc., c'est quoi la taille pour que ça soit officiellement un linguiné ?
Alors, c'est très officiel, vous connaissez l'Italie, il n'y a pas de place pour la fantaisie, non, je plaisante, mais c'est 260 mm de longueur, 3 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur. Ça, c'est le côté officiel du linguiné, parce qu'en fait, quand les gens achètent dans le commerce des pâtes, en Italie, il y a une telle grande variété de pâtes que la précision est de rigueur.
Alors, les pâtes, ça peut être des pâtes fraîches, ça peut être des pâtes sèches. Linguine, pareil, on peut les acheter, si on ne va pas les faire soi-même, on peut les acheter en version fraîche ou en version sèche.
Tout à fait, absolument. Alors, dans tous les grands magasins, vous allez trouver les linguine de différentes marques. On ne va pas citer de marques, parce qu'il y a quand même des marques qui sont meilleures que d'autres. Et puis, à faire frais, ben, vous pouvez les acheter fraîches dans des commerces de pâtes, d'alimentation de luxe, etc. Il n'y a pas de problème.
Alors, les pâtes, c'est bon, mais sans sauce, c'est un peu triste quand même. Comment est-ce qu'on les apprête, ces linguine, puisque il y a des sauces qui vont être particulièrement adaptées à cette forme-là de pâte.
Alors, ce qui est sympa dans le linguine, c'est que ça se prête très très bien à la cuisine froide, à la cuisine tiède ou à la cuisine chaude. Donc, pour la cuisine chaude, eh bien, vous les sortez d'eau chaude, vous les mettez dans un récipient, une petite casserole, vous mettez de l'huile d'olive, et puis après l'assaisonnement, qu'on verra tout à l'heure, différentes recettes. Et c'est terminé. Pour la cuisine tiède, eh bien, vous les mettez dans un saladier, vous les assaisonnez comme vous voulez, vous les dressez dans une assiette chaude et ils sont encore un peu tièdes, etc. Puis froide, il faut les refroidir brutalement dans l'eau, parce qu'il ne faut pas que la cuisson continue, puis quand elles sont totalement froides, de les égoutter, on peut les utiliser à partir de là comme salade, et une salade de linguine, c'est absolument exceptionnel.
Le linguine se marie bien avec foule d'ingrédients. Claude Frotté nous donnera quelques suggestions la semaine prochaine.
Et les pâtes, on les aime à toutes les sauces, elles dépannent, elles sont appréciées de tous. Et c'est le thème qu'a choisi Nadia également pour la recette du nul qu'on écoutera dans un petit moment. Une recette Gavotte, vous en avez apporté une qu'on retrouvera demain sur la page de la table des gourmands. Vous nous avez apporté la recette de l'omelette arlequin et son coulis de poivron doux. Alors on l'a bien compris, hein, et elle consiste à faire des omelettes avec des poivrons, mais pas que.
Ah, pas du tout, c'est pas une omelette comme les autres. C'est des œufs battus avec du fromage qu'on met dans un moule, qu'on cuit au bain-marie 15 minutes à peu près. On ajoute des œufs battus avec des épinards qu'on a fait revenir dans un peu de beurre avec une gousse d'ail. On verse sur la partie qui est prise de d'œufs et de fromage. Puis après, on recuit au four. Et puis après, on met une couche d'œufs avec un coulis de tomate bien assaisonné et on cuit une troisième fois au four. Alors, elle peut se manger froide, mais moi, je la préfère froide. On pourrait la manger chaude. On démoule et pendant que c'est au four, on fait un coulis de poivron un peu élaboré parce qu'il faut le passer, il faut que ce soit vraiment très très fin. Et on coupe l'omelette en tranches de 1,5 cm à 2 cm d'épaisseur. On met ça dans une assiette et on garnit avec le coulis de poivron. C'est très joli et c'est très bon.
Alors demain, sur la page de la table des gourmands, il y aura une photo. Ça ressemble, le prenez pas mal, hein, mais ça ressemble à une terrine, la forme, sous forme de terrine. Et puis ça se sert en entrée plutôt.
Ça se sert en entrée.
Donc cette magnifique entrée, on la retrouvera donc demain sur la page de la table des gourmands sur nos sites. Depuis le début des cours culinaires à l'école normale, les supports de cours ont changé. Il y a eu le manuel neuchâtelois, le livre recettes culinaires et hygiène alimentaire de 1969 qui fut réédité il y a 8 ans et le croque-menu. Vous avez d'ailleurs participé à l'élaboration du croque-menu 1. Qui a été réédité plusieurs fois, mais pas au croque-menu 2. Comment se fait-ce ?
Alors, j'étais déjà en retraite et le canton du Jura n'a envoyé personne pour l'élaboration de ce deuxième croque-menu. Je ne l'aime pas beaucoup parce qu'il y a aucune goutte d'alcool, on fait de la fondue avec du cidre, on ne déglace jamais avec un peu de vin blanc, on ne flambe jamais rien, on ne met pas de kirsch ou de rhum dans les truffes ou dans certains gâteaux. Pour moi, c'est pas de la vraie cuisine. Et c'est les parents et les enseignantes qui ont élaboré le livre, qui ont voulu ça. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on ne développe pas un bon goût chez les élèves. Je tiens quand même à vous dire que dans le temps, je dis dans le temps, mais encore dans les années 95, on ne voyait jamais de coma alcoolique chez les adolescents. Et maintenant qu'on leur supprime des bonnes sauces, une bonne blanquette au vin blanc, eh bien, tous les week-ends, il y a des comas alcooliques. Alors ne me dites pas que l'alcool dans les recettes rend les enfants alcooliques. Il reste quasiment rien comme alcool. C'est pas ça qui ça donne du goût au mets, mais c'est pas ça qui rend les enfants alcooliques.
Est-ce que vous pensez que c'est la différence culturelle également, la mixité des classes qui a engendré ça, ou c'était bien avant ?
Alors, c'était avant dans un livre de cuisine en Suisse allemande qu'on avait tout remanié et on a rajouté de l'alcool partout. D'ailleurs, dans le premier croque-menu qui a été réédité trois fois, il y a des recettes de grands cuisiniers. Pierrot en a donné. Mmh. Et il y a toujours un peu d'alcool dans ces recettes.
Qui s'évapore, hein, on le
qui
dit.
Qui s'évapore,
hein,
à la cuisson. Il faut pas en rajouter.
Donc je ne vous demande pas si dans votre bibliothèque vous avez le croque-menu 2.
Alors pas du tout.
Ok, alors je ne vous demande pas. Les professeurs d'économie familiale, elles élaborent différemment, hein, leurs recettes. Le choix des menus est assez flagrant entre les années précédentes et maintenant. Vous en pensez quoi également de ça, Gavotte ?
Alors le nombre de leçons a légèrement diminué. Et je trouve que, d'après ce que j'entends, je ne veux pas porter de jugement parce que ça ne m'intéresse plus. On fait bon des hamburgers avec des frites. C'est pas de la cuisine. C'est pas des menus équilibrés. On doit insister en économie familiale pour que l'éducation nutritionnelle soit respectée.
Pour aller à l'encontre de la malbouffe.
Pour aller à l'encontre de la malbouffe, évidemment.
Donc c'est pour ça qu'à l'époque, bon, il y a le manque de temps hein, aussi, mais c'est vrai qu'à l'époque, lorsque moi j'ai suivi les cours, on avait une petite entrée, on apprenait à laver la salade, à la prêter, à couper des légumes, on avait des desserts fruités les trois quarts du temps, la plupart du temps. Et puis maintenant, ben, c'est vrai qu'on peut voir que c'est plutôt plus rapide, en tous les cas, plus accessible par rapport au manque de temps.
C'est pas seulement le manque de temps. Aussi, les élèves commencent leur cours d'économie familiale
Ils sont plus petits.
Le 9e Armos. Avant, c'était d'abord en 9e, après en 8e. Donc, pas Armos. Hein. Mais ils étaient un peu plus mûrs. Et puis, ils étaient plus aptes, peut-être, à s'habituer à ces cours, parce que maintenant, ils ne savent absolument rien faire. C'est tout juste s'ils savent ce que c'est qu'une carotte.
Ils sont trop petits, ils sont comme vous, Gavotte. Ils ont commencé la cuisine, ils commencent à faire la cuisine à 15 ans. C'est pour ça. C'est vrai qu'ils sont petits pour aller en cours de cuisine.
À 13 ans qu'ils commencent, c'est trop tôt.